Radio Déclic.
Encourager la fraternité. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre chaque jour.
Radio Déclic. Radio Déclic.
Radio Déclic. On aime découvrir d'autres cultures.
Ce sont des messages qu'on fait passer.
Fréquence Paris Pluriel 106.3. Eh bien, bonsoir, c'est l'heure de Radio Déclic sur les ondes de FPP 106.3, l'avant-dernière avant la saison, donc une ambiance estivale dans le studio. Alors ce soir, CZ, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Florence, bonsoir les auditeurs, bonsoir les amis autour de la table. Ce soir, on va aller aux USA, en Norvège, en Île-de-France, à Nevers et à Marseille pour les pépites.
Et puis Philo, bonsoir.
Bonsoir Florence, bonsoir les auditeurs. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler des relations humaines VS les relations virtuelles.
On saura ça tout à l'heure. Et puis on recevra notre invité du jour, c'est l'artiste Chaer. On verra avec plusieurs cordes à son arc. Et puis, il est de retour. Il est parmi nous. Il a trouvé une tête de cheval dans ses fouilles. C'est Mehdi. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Florence et bonsoir à tous. Alors pour ma dernière émission de la saison, je vous ai préparé le journal d'information.
Voilà, donc ça sera son dernier journal d'information pour la saison. Et puis bah, tout de suite, on enchaîne aussi avec les informations. On commence avec les informations internationales, direction le Maroc.
Oui, soyons plus sérieux, le Maroc où le mouvement de contestation dans le Rif au nord du pays continue, mais sur la plage et en maillot de bain. Les forces de l'ordre marocaines ont tenté dimanche de déloger des manifestants du mouvement Irak sur les plages d'Al Hoceima. Ces derniers scandaient des appels à la libération des détenus politiques et à la démilitarisation de la zone. Et ça, c'est les médias marocains qui nous le disent. Lundi, les plages de cette région sont la vitrine touristique du Maroc, après les grandes villes du sud comme Marrakech, et elles sont très fréquentées l'été. Les militants se sont rabattus sur la plage car ils ont été empêchés d'investir les rues de la ville. L'initiateur du mouvement Nabil Amagic est quant à lui toujours en prison.
Cap sur la Syrie.
Oui, une centaine d'intellectuels syriens et français alertent dans une lettre ouverte publiée dans les colonnes du journal Libération le président de la République Emmanuel Macron sur la situation chaotique qui règne en Syrie. Ils remettent en cause son analyse qui se résume à ne pas remplacer le dictateur Bachar al-Assad. Dans cette tribune, ils affirment que c'est une erreur d'analyse majeure et qu'il ne n'endiguera en aucun cas le terrorisme. Quoi qu'on pense sur cette plus que complexe question, il est nécessaire que ce conflit s'arrête. En 6 ans, il a déjà fait plus de 465 000 morts et encore un plus grand nombre de blessés.
La Corée du Nord.
La Corée du Nord a annoncé mardi 4 juillet avoir lancé avec succès un missile intercontinental. Ce missile a atteint une altitude de 2802 km et a volé pendant 39 minutes avant de frapper avec précision son objectif, a affirmé la télévision officielle nord-coréenne. Les premiers calculs des experts confirment les affirmations de ce pays.
Une mauvaise nouvelle pour finir la page internationale.
Le groupe Boko Haram au Niger a enlevé 37 femmes et a tué 9 personnes. La scène d'horreur s'est déroulée dans le sud du pays, près de la frontière avec le Nigeria.
On poursuit avec les infos nationales.
Simone Veil est morte le 30 juin dernier à l'âge de 89 ans. Ce fut l'une des figures de la France, rescapée des camps de la mort. Les femmes françaises lui doivent beaucoup. C'est elle qui, en juin 1975, fit adopter l'avortement au Parlement après une lutte sans merci. Elle a été ministre de la Santé et membre de l'Académie française. C'est une grande femme qui s'est éteinte. Elle devrait être inhumée au Panthéon aux côtés des grands de la République. Une pétition est en ligne qui le réclame et elle a déjà récolté plus de 300 000 signatures.
La politique.
Ce fut une semaine chargée dans l'agenda politique. Lundi, Macron s'exprimait au congrès à Versailles pendant que les députés Parti communiste et France insoumise manifestaient. Mardi, Édouard Philippe faisait sa très attendue déclaration de politique générale. Il a décrit durant un long moment toutes les mesures qu'il compte mettre en œuvre. Les députés lui ont voté la confiance à lui et à son gouvernement, facile avec 351 députés. Lors de sa déclaration, le Premier ministre a annoncé que dès novembre, l'état d'urgence sera abandonné, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'une grande majorité des mesures seront intégrées au droit commun.
On va au PS.
Ou plutôt, on le quitte, comme Benoît Hamon qui a fondé son mouvement au nom pas très original, Mouvement du 1er juillet. Les idées qu'il défend ressemblent à celles de son programme en 2017. Enfin, une bonne nouvelle, Marine Le Pen a été mise en examen dans l'affaire des assistants parlementaires payés par Bruxelles alors qu'il travaillait pour le FN à Nanterre. Elle a fait jouer sa double immunité, mais les juges pourraient demander leur suspension.
Les infos locales à présent.
Les médiathèques de pleine commune réservent à ceux qui ne partent pas en vacances un super programme cet été, un super programme créatif avec plein d'activités. Pour consulter le planning, rendez-vous sur notre site www.associationdeclic.org/info. Le prix de l'Observatoire de la Fraternité du 93 a été décerné samedi dernier à l'association Nuage, qui œuvre pour les jeunes des quartiers populaires, et au collectif Solidarité Migrants Wilson, qui distribue les petits déjeuners aux migrants de la Porte de la Chapelle. Et puis demain samedi sera lancée la seconde édition du Street Art Avenue, initiée par l'Office du Tourisme de Grand Paris et de Pleine Commune. Des balades en bateau sur le canal de Saint-Denis seront organisées pour découvrir la ville sous un autre regard. Et bien sûr, vous pourrez contempler les tags réalisés dans le cadre du même projet l'an dernier, tout au long du canal de Saint-Denis, qu'il traverse les villes d'Aubervilliers et de Saint-Denis.
Le sport maintenant.
Le Tour de France a commencé à Düsseldorf en Allemagne la semaine dernière, et pour l'instant c'est le légendaire Peter Sagan qui mène la danse.
Et puis le temps pour finir.
Ce week-end il fera chaud, entre 24 et 31 degrés, mais des perturbations viendront nous déranger. Merci d'avoir suivi le journal.
Les gros beaux débarras dans les barrages, demande à Jonka. Le pôle N, faisons à la place du barbal. Qui donne le texon, il est de quartier. Les petits qui parlent, ma voilà, faut que c'est tarté. T'es peut-être armé, chez nous y'a les bravas. Dans mon sol, les fils de pute qui parlent, mais des les gars. Tous ces enfoirés, chez qui passe ma ouais, c'est pas ta mentie. J'ai pas de fiche de pêche, connais pas mon salaire, mais j'parle des Gucci. On m'a dit qu'à fouguette la concurrence, j'vois que des abrutis. Tous là pour le même but, reste dans le merde. Laisse les jaloux, laisse les coups mal à mal, c'est pour nous. Ils diront MHD, il est relou. En tant que parti, le mec nous a chez coups. LNG va doucement sur vos covers. Qui me suit, on se follow sur Twitter. Ma chérie me presse pas, l'amour est tueur. Il qu'a digné, c'est ça qui me fait peur. Tous ces enfoirés, chèques qui passent en moi, ouais, c'est pas ta mentie. J'ai pas de fiche de pêche, connais pas mon salaire, mais j'parle des Gucci. On m'a dit qu'à fouguette, la concurrence, j'vois que des abrutis. Tous là pour le même but, reste dans le merde.
Eh bien, c'était MHD avec Fais le Move. Vous êtes toujours sur Radio Déclic, dans l'émission Radio Déclic du même nom, donc que vous pouvez retrouver tous les premiers, troisièmes et cinquièmes vendredis de chaque mois. On continue avec les pépites de CZ.
Votre attention, s'il vous plaît. Le train intercité numéro 5971, reliant Paris à Clermont-Ferrand, a loupé l'arrêt prévu en gare.
Il pouvait difficilement s'arrêter à l'endroit initial ce mercredi 28 juin. Après 2 heures de trajet, à la surprise des voyageurs, le train reliant Paris à Clermont-Ferrand a loupé l'arrêt prévu en gare de Nevers, avant de s'arrêter définitivement en gare de Saint-Cèze, 5 km plus loin. La raison, le conducteur, un cheminot du dépôt de Paris, était aux commandes du train avec 3,34 grammes d'alcool par litre de sang. Après l'arrêt définitif, il a été immédiatement transporté au centre hospitalier de Nevers où les médecins lui ont fait une prise de sang qui a relevé le taux d'alcoolémie. Il a été ensuite transporté donc à la gendarmerie où il a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. Les gendarmes tentent de déterminer si le cheminot a bu avant ou pendant le trajet.
Eh ben disons qu'il n'y a pas que les gendarmes. Hein. Une deuxième pépite ?
Oui, une deuxième pépite. Donc là, un petit peu moins drôle, celle-là. Il n'a que 22 ans, mais le pas d'un vieil homme. Donc le ventre balafré par une méchante cicatrice, Nelson, préparateur de commandes à Rungis dans le Val-de-Marne, a encore du mal à marcher. 2 morceaux d'intestin viennent de lui être retirés, les conséquences d'une dramatique erreur médicale. Son calvaire commence en 2010. Cet été-là, il est opéré d'une appendice aiguë à Orsay, donc dans l'Essonne. 4 mois plus tard, des douleurs irradient le côté sous le bras droit. Pendant 7 ans, il consultera une vingtaine de fois scanners, échographies, IRM, toujours plus d'examens et un même diagnostic, vous n'avez rien, c'est musculaire, balaye les médecins. Donc jusqu'au 23 mai dernier, pris de vomissements, il se couche, réveille sa compagne en pleurant pour l'emmener à l'hôpital, donc direction Orsay. Après une nuit d'observation, le verdict tombe, infection au poumon. 5 minutes plus tard, le médecin se ravise, c'est une embolie pulmonaire. Donc Nelson reçoit des piqûres d'anticoagulants, mais au bout de 48 heures, il faut tout arrêter, il s'agit en réalité d'une infection au foie. Donc le 29 mai, Morgan, sa compagne, donc, reçoit un appel de son compagnon. Il pleurait, les médecins avaient encore changé de version. Il avait maintenant un ver tropical dans le foie.
Eh ben.
Pourtant, donc, les vermifuges, ne parviennent pas à tuer le parasite. Donc une radio permet enfin de comprendre. Donc l'après-midi même, Nelson est transféré à l'hôpital du Crémin-Bicêtre, spécialiste des maladies tropicales. Pour eux, ce n'est pas un ver. Il était droit comme une règle. Ça ne tenait pas la route, donc du coup, une radio confirme les doutes. Ils m'ont dit que c'était un corps étranger, oublié par une intervention chirurgicale. Donc Nelson fait alors le lien avec son opération de l'appendice, donc il y a quelques années. Il faudra 3 heures pour lui retirer ce tube en plastique de 25 cm. Il restera hospitalisé encore 7 jours. Aujourd'hui, Nelson regrette de ne pas avoir changé d'hôpital avant. Lui qui souffre toujours d'une infection au foie devrait refaire un scanner. En attendant, il se prépare à une action en justice. L'hôpital a demandé à rencontrer Nelson qui a refusé, bien sûr. Une enquête interne est en cours.
Bah dis donc, alors c'est pas les premiers cas hein, qu'on voit. Souvent, finalement, on retrouve des objets dans le corps gens, des ciseaux, des compresses, ouais. etc. C'est vraiment incroyable, donc il faut vraiment faire attention quand on se fait opérer. En même temps, on dort, donc on est endormi, on peut pas savoir, mais c'est vrai qu'il faut y penser. Alors ce qui est curieux dans cette histoire, c'est qu'il a fait quand même IRM, scanner, etc., et qu'ils ont rien vu les premières fois. Hein.
Bah après, en lisant, si c'est un tube en plastique, si ça se trouve, la façon dont il est tourné, enfin,
effectivement, ouais.
un plastique transparent, ça se voit
ouais,
pas.
Tout à fait, ouais. Vu que c'était pas métallique, oui. effectivement, c'est les métaux. Philo ?
Moi, ça m'est déjà arrivé de. En fait, j'étais en salle de réveil et je les ai entendus. Bon, j'étais dans mon état hein, avec l'anesthésie. Et je les ai entendus dire ah, ils saignent, vous avez oublié. Je crois que c'était pas une compresse, je sais plus ce que c'était, mais ils avaient oublié quelque chose.
Ah bon ? Oui, mais ça veut dire qu'ils t'ont réouvert ?
Ouais, ils m'ont ramené
en salle d'opération. Oui, ouais. Ah, carrément bloc.
Mais comme j'étais dans mon état, voilà, j'ai rien dit. Et quand je me suis réveillé, en plus, ils disent rien. Me suis réveillé et quand j'étais en état de parler, je leur ai dit, mais il s'est pas passé quelque chose et tout. Bon, ils m'ont dit non. Ils ont caché, mais.
Enfin, et bref. Donc finalement, t'as jamais su vraiment si t'étais en plein délire ou si c'était vrai, finalement.
Non, si c'était vrai. c'était vrai. Hein, après, il y a une des infirmières qui a dit ouais, vous deviez revenir à telle heure et enfin plus tard que prévu à cause de ça.
Ben oui.
Bon bref.
Ah non, c'est ça incroyable, va, ça arrive souvent genre de truc. Bon. Ok, ben on va passer puisque c'est l'heure de l'invité du jour. Radio Déclic. 106.3.
Alors Florence, nous avons un invité aujourd'hui.
Eh bien oui, Philo, nous recevons aujourd'hui Shaer, qui est un artiste, auteur, compositeur, interprète, danseur, artiste, plasticien et bien d'autres cordes à son arc. Alors Shaer, il est français, d'origine comorienne. Shaer, bonjour.
Bonjour Florence, bonjour Philo.
Quand tu étais petit, c'était quoi ton rêve ? Est-ce que tu pensais faire ce que tu fais actuellement ?
Mon rêve quand j'étais petit, c'était d'être journaliste. En fait, il y avait un gars dans mon coin de pays qui s'appelle, je crois qu'il est mort, en tout cas, je ne voudrais pas le tuer, quoique les mots tuent. Il s'appelle Hakim Ali Saïd, et en fait, la vision de lui que j'avais à la télé, en tant qu'animateur, m'a donné envie d'être journaliste, et je crois que autour de l'âge de 8-11 ans, je me suis dit, purée, c'est le métier que je veux faire. Ah ouais. Donc c'est un rêve que j'ai réalisé. Et la poésie, en fait, elle est arrivée à moi vraiment par hasard. Il se trouve que, étant natif d'Anjouan et ayant grandi à Mayotte, moi, je fais partie de la génération, quand on arrivait à 11 ans en 6e, c'était on était un prodige. Les gens qui étaient en 6e avec moi avaient 18, 19, quoi, tu vois. On se faisait chahuter parce qu'on était les tout petits. Et je m'étais jamais intéressé. Mon premier bouquin, j'ai dû le lire, je sais pas, moi, en troisième, tu vois. J'ai commencé à parler français de manière intelligible vers l'âge de 11 ans, parce que les profs nous parlaient en blédard quand on comprenait pas la langue et tout ça à l'école, quoi. D'ailleurs, eux-mêmes, les profs ne la maîtrisaient pas. Et du coup, je m'étais jamais dit j'allais écrire. Et au travers d'un cours, je me rappelle très bien, en cinquième, un cours de français en fin d'année, le prof nous dit, pour tuer le temps, écrivez un texte, lisez-le, puis on verra ce qu'il en est. Moi, j'avais une espèce de posture un peu rigolo de la classe, dans les groupes et hors des groupes, je faisais un peu mon délire. Et on m'associait souvent à ça, surtout à ça. Et là, j'écris un texte, je le lis. Et là, je me suis rendu compte pour la première fois qu'en fait, les gars ont fermé leur gueule pour m'écouter. Et il y a une fille dans la classe qui dit « Mais non, il a pris un texte sur je sais pas où, puis il nous l'a placé. » Et là, je me suis dit « Ah, ok, il y a quelque chose qui se passe. » En troisième, il y a une prof qui m'a bien apprécié, que j'avais d'ailleurs beaucoup apprécié, et qui a officié un peu comme fée, F-E-E, pour moi, et qui m'a fait lire, je crois, 300 bouquins cette année-là, et qui m'a offert des... qui m'a offert des recueils...
Ils font les ongles de la graine, hein, les jeunes.
Ah ouais.
Voilà. Qui m'a offert des recueils, et de là, j'ai commencé à tisser ma propre plume.
En fait, déjà jeune, curieux, envie d'écrire, de lire...
C'est une condition d'insulaire, je crois. Quand on est dans un espace petit, réduit, moi j'avais une moto autour de 16-18 ans, mon délire c'était de rouler, et le tour de l'île, je faisais quasiment... une fois par mois, ça me prenait 5 heures quoi, en moto sur une 125. Et du coup, ma première manière d'échapper à mon nullité, c'était la vitesse que m'apportait le vent, la moto, et tout de suite après, le bateau et enfin l'avion. C'était une manière aussi de se prévoir ailleurs.
Alors, tu arrives en France à l'âge de quel âge ?
J'arrive à 18 ans et demi, 19 ans pour le bac. Donc, je fais une école intéressante à Caen, voilà.
D'accord. Philo ?
Est-ce que tu as fait des rencontres inattendues qui t'ont ouvert justement des horizons auxquels tu n'aurais pas pensé dans ton parcours ?
Eh bien, tu vois, c'est une excellente question. J'adore quand, quand on dit ça, tu vois. C'est une excellente question, mon cher Philo.
Ouais, ça...
Tu sais, on s'enjaille un peu. J'ai une conception à la fois de la vie et de la poésie, parce que pour moi, les deux sont intrinsèquement liés, de l'improvisation. C'est-à-dire que tout est fait en improvisation. On rencontre constamment des personnes qui nous ouvrent des voies, une parole qui nous ouvre des voies, une image qu'on voit qui nous propulse à des endroits auxquels on ne se serait jamais perçu à l'avance. Si bien que, pour répondre clairement à ta question, oui. Et c'est tout le temps. La manière dont on s'est rencontrés, par exemple, toi et moi, était assez fortuite. C'était autour d'un atelier avec Sisdi de chant. L'énergie est passée, on a échangé et c'est resté.
Voilà, exactement.
La transition est toute faite, hein, puisque voilà, tu es un amoureux des mots. Hein, ça se sent quand tu parles, mais tu es aussi créateur d'un atelier de prise de parole en public. Ça se passe tous les mercredis de 19h à 20h au centre Victor Jeulès dans le 11e. Alors parle-nous de cet atelier, de cette importance pour toi de la prise de parole.
Je vais revenir aux origines. En 2013, je reviens à Paris. Difficulté à trouver un emploi parce que j'ai été formé comme journaliste au Canada, j'ai travaillé là-bas. Il y a à la fois ici le rapport aux fédérations. Quand on est journaliste ici, on appartient à une fédération, on a une carte de presse, ce qui n'est pas le cas là-bas. Et j'étais au chômage tout simplement et je me suis dit, tant qu'à être au chômage, je vais gagner mon temps. Et je me suis intéressé à différentes disciplines et j'ai découvert le slam. Donc j'ai été à des ateliers, j'ai vu ce qui s'y disait, ce qui s'y passait, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et en lien direct avec ma vision de la parole poétique, qui est d'abord une parole dite, une parole échangée. Et j'ai fait comme ça 2 ou 3 ateliers, et je me suis rendu compte que j'évoluais assez bien, les gars qui animaient les ateliers me l'ont dit, ils m'ont d'ailleurs proposé d'animer 1 ou 2 ateliers pendant qu'ils étaient absents. J'ai vu que ma manière, en fait, la synthèse que j'avais fait de tout ce que j'avais pu voir jusque-là plaisait bien aux personnes qui participaient. j'ai proposé une espèce de prototype à des personnes que j'ai rencontrées à l'individuel, qui avaient eux une pratique d'écriture et qui avaient besoin d'aller un peu plus loin ou de voir leurs lacunes ou d'avoir juste une espèce de lecteur extérieur. Et je leur ai proposé ma vision qui est comment investir notre corps de parole. Souvent, on mobilise la langue, les mots, et on dit que c'est la seule manière de donner l'émotion. Or, notre corps est capable de le faire aussi. Et à partir de ça, je me suis dit, ça serait chouette que je monte mon propre atelier. J'ai découvert le centre Victor Jolez où j'avais enregistré un morceau. Je leur ai proposé un plan. Ils m'ont dit, écoute, viens l'essayer et voir ce que ça donne. Et depuis février, cet atelier a cours les mercredis, comme tu le disais, 19h-21h.
Alors justement, quels sont quel est ton public, quel genre de personnes viennent pour assister et participer à cet atelier?
Très intéressant. Je l'ouvre à quasiment tout le monde, à toutes les tranches d'âge, dans la mesure où, toujours en me référant à cette idée que l'écriture est d'abord une improvisation constante, tout le monde est capable de parler, donc tout le monde est capable de poésie. Du coup, on va avoir des jeunes qui vont avoir entre 12 et 30 ans officiellement. Et ensuite, on ouvre. Moi, je suis constamment j'embauche des gens constamment pour venir à mon atelier. Les profils, ça va ressembler à des chanteurs comme Philo, comme Alex, dans des univers très différents, soul, R&B, rap. Ou il y a des gens qui, comme Emmerich, par exemple, viennent sortir un très beau bouquin qui s'appelle Le plafond de verre et noir, qui est conférencier, qui est communicant à Lima, donc à l'Institut du monde arabe. Et enfin, j'ai des personnes qui sont, par exemple, architectes ou des personnes qui ont une activité associative et qui ont à s'adresser à des personnes en difficulté, migrants, exilés, femmes battues et autres, qui ont besoin en fait de mobiliser une parole juste et une corporéité juste pour s'adresser à ces personnes-là.
Comment ça se passe concrètement? Est-ce que en fait, à partir de textes, ils doivent écrire des textes? Est-ce qu'il y a à un moment donné, chacun doit exprimer, le texte, en tout cas de devant les autres?
Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je viens de trois univers d'ateliers. Un où il faut, on arrive, on s'assied, des thématiques sortent, on écrit, toujours en automatique. Un autre qui mettait beaucoup l'accent sur la capacité à improviser. Et du coup, moi, j'ai fait ma sauce de ça. Si bien que je propose d'abord de pouvoir échauffer le corps. Parce que tout texte, toute voix part d'abord d'une matière corporelle. Et notre corps est un peu une espèce de plasma ou de mémoire, en fait, de notre journée. Autrement dit, on incorpore des souvenirs, des sensations, des mots toute la journée. Je leur demande, par l'échauffement physique, de réveiller ces sensations-là. Et ensuite, on passe à l'écrit. Soit à partir d'exercices bien précis, comment est-ce qu'on trouve une thématique? Comment est-ce qu'on la développe? Comment est-ce qu'on écrit? Soit par l'automatisme. En tout cas, il y a toujours des objectifs précis à chaque atelier, même si chaque atelier, c'est à la carte. Je leur propose en fait, d'avoir un parcours dans le brouillard, mais je sais exactement où est-ce que je veux m'en aller pour développer chez chacun quelque chose qui peut servir à tous pour écrire. Donc un atelier typique, ça peut être une partie échauffement physique, une partie échauffement vocal et une thématique d'écriture. Soit vous vous échangez des mots, soit je propose une thématique. Par exemple, j'ai déjà fait un atelier autour de comment est-ce qu'un journaliste écrit pour la radio. Donc on a vu ensemble les règles d'usage. J'ai fait une thématique sur quand on arrive là, comment est-ce qu'on peut investir, encore une fois, toute cette mémoire de la journée qu'on a eue pour écrire de manière automatique. Mais en réalité, on se rend assez vite compte que tout ce qu'on écrit, en fait, a un lien. Oui. Et que même quand on écrit de manière automatique, vu que ça vient de nous et que ça vient de notre journée, de ce qu'on a emmagasiné, il y a un fil conducteur.
Entre les ondes, je me faufile. Branché à mon nombril, je fuis la lumière pour l'ombre et m'évapore comme l'ombre.
Radio Déclic 106.3, on retrouve notre invité Chaer. Il y a quelque temps, c'est en juin dernier, je crois, donc Emmanuel Macron, donc notre nouveau président, a évoqué les Kwasa Kwasa. Il a dit, en fait, le Kwasa Kwasa pêche peu. Il amène surtout des Comoriens. Quel est ton ressenti par rapport à cette histoire ?
Le 11 juin, du coup, je faisais une lecture à laquelle tu as participé, Philo, dont le sous-titre était « Nos morts ont droit à la dignité » et dont le titre était « Se taire n'est pas la mer à boire ». Ma manière de réagir à cet acte qui est déshumanisant, d'une part, irresponsable, d'autre part, pour un homme de sa stature, et au final qui est une négation, en fait, de qui on est, de l'histoire qu'on porte, c'était ma manière poétique, en fait, de revenir sur cet acte-là. Comme je le dis, moi, j'ai découvert... Donc, le 11, il y a eu la lecture. J'ai découvert ces propos autour du mardi, pas celui précédent le 11, mais celui d'avant. Et j'ai été choqué. Et à ce moment-là, tu te dis, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de rire de la mort ? De la mort tragique, par ailleurs.
Bien sûr.
Il se trouve que moi, j'ai vécu dans ma chair des morts en traversant par quoi ça. Je ne voulais pas non plus aller sur un terrain purement politique, parce que par ailleurs, je n'ai pas été, moi, faire de marche dehors, parce que l'information est arrivée trop vite. Je ne savais pas qui organiser, et je ne voulais pas être pris dans un espèce d'étau de reprise politique d'une actualité tragique. Ne sachant pas qui organiser, je ne me suis pas rendu aux manifestations. Encore une fois, en tant qu'artiste, il fallait quand même que j'ouvre ma bouche. En tant que Comorien, il fallait que j'ouvre ma bouche. En tant que victime, il fallait que j'ouvre ma bouche. Et en tant qu'humain, tout simplement, il fallait que j'ouvre ma bouche. Et donc, j'ai écrit un texte en 2 jours. J'ai trouvé des personnes pour faire la lecture. J'ai trouvé un lieu pour le faire et j'ai fait filmer. C'était ma manière, en fait, de dire... Ce n'est pas parce qu'on est peu nombreux en termes de communauté qu'on doit narguer nos morts, déshumaniser les humains qui portent la mémoire de ces personnes-là. Et ma manière de le faire, c'était ça. C'était d'inviter plusieurs personnes d'origine comorienne ou pas. Il y avait 9 lecteurs, 2 parmi eux, moi en faisant 3e, était comorien, il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des jeunes de 20 ans à 63 ans, parce que ça nous concerne tous. Et aujourd'hui, le problème qui se pose, enfin, un des problèmes qui se pose, c'est que on nous demande tous d'être dans notre univers et de défendre ce qui nous tient à cœur, et on oublie ce principe phare de quelqu'un comme Édouard Glissant, qui est le tout monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plaie humaine est d'abord une plaie humaine. Elle n'est pas une plaie communautaire, elle n'est pas une plaie d'origine comorienne ou française.
Alors justement, ce texte, « Se taire n'est pas la mer à boire », que tu vas nous lire, en tout cas un extrait avec Philo, je crois.
Je vous lis le prologue. Et Philo se chargera d'une partie qu'il avait déjà lui-même lue, qui est un des personnages que j'ai appelé à la fois le mort et l'homme dans ce court texte. S'il faut que nos morts soient souillés, eux qui sont notre passé et nous leur avenir, faisons un banquet, mais ça sera le nôtre. Des rires, mêlés de chagrin, côtoieront nos breuvages. Oui, mais nous boirons à nous en frapper la panse. Nous boirons à notre condition et nous en rirons. Mais entre nous et vous, les vivants qui plaisantez avec zèle, vous qui moquez les morts qui ne sont plus, les voix qui se sont tues, les chairs putréfiées, nos filaments de souvenirs, notre désespoir, la perte, vous êtes indignes.
J'ai choisi la mer pour toi et tu as consenti, mer. Nous allons ensemble comme nous avons toujours été. Les regrets ne changent rien à l'affaire. Elle est pliée, les jeux sont faits. Je sais que sur la terre ferme, de mauvais hommes se réjouissent de notre sort. De l'autre côté de la ville, les tam-tams, des fessiers larges comme des drancards, des pieds nus, des bouches acerbes et des pensées veulent, nous espèrent une lente agonie. Leur souffle contre le nôtre. Il nourrit la lame et le feu avec le sang du cabri. il n'en reste que les os, que les cendres.
Merci.
Merci, merci Chaer, merci Philo pour ce texte. Alors ce texte qu'on peut retrouver la vidéo sur Facebook, Chaer, c'est ça?
C'est ça, j'ai fait filmer cette prise de parole pour encore une fois faire mémoire, parce que je trouve que ce qui nous manque souvent, c'est ça, c'est n'étant pas capable de faire mémoire, ce qui nous arrive souvent n'est pas vu. Donc je vais le mettre sur ma page personnelle Facebook. Il sera évidemment sur YouTube. J'espère qu'en tapant « Se taire n'est pas la mer à boire », on pourra le retrouver dans son intégralité pour ceux qui veulent.
En tout cas, Chaer, merci beaucoup. Donc, si on veut avoir plus d'informations, ben voilà, il y a la page Facebook. Chaer, donc ça s'écrit C-H-A-H-E-R. Voilà. Donc, vous tapez ça sur Facebook. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo aussi du texte.
« Se taire n'est pas la mer à boire ».
I'm alone in my quiet flat. I walk around, feel like it down. Ooh, I need somebody tonight that I can't. No, I can't. So I switch out the light and I count the sheets. More faith taking me away, getting the best of me.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Déclic sur 106.3. Vous venez d'écouter l'artiste Chaer. Et tout de suite, on retrouve deux nouvelles pépites de CZ.
Oui, tout à fait. Donc, le Troll Picken, pénis du troll, une roche en forme de sexe masculin, se dressait fièrement dans le sud-ouest de la Norvège. C'est, je vous assure que c'est vrai. Je ne rigolais pas, je vous assure.
Non,
que
non,
c'est...
mais on connaît très bien les trolls.
Cette protubérance naturelle, devenue une attraction touristique, a malheureusement été sectionnée durant le week-end du 24 juin.
Quick.
Voilà, quick. Un quasi drame national. Des promeneurs ont retrouvé la masse rocheuse gisant au pied de la paroi sur laquelle il se dressait alors. Des traces de forage dans la roche montrent que la formation géologique a été victime d'un acte de vandalisme délibéré. Donc la police, bien sûr, a ouvert une enquête. Hein. Donc des centaines de Norvégiens ont mis la main à la poche pour réparer cet étonnant rocher phallique pour récolter donc les morceaux. Un entrepreneur local a lancé une collecte sur un site de financement participatif. Près d'un millier de généreux donateurs auraient répondu à l'appel. Le pénis du troll doit être redressé. Donc permettant de rassembler plus de 160 000 couronnes. C'est l'équivalent de 17 000 euros.
Bah dis donc, ça vaut cher, hein, le pénis d'un troll. Hein.
Donc voilà. Donc là, nous allons aux États-Unis, où la marque américaine Native dévoile une nouveauté qui colle parfaitement avec la saison en cours. Un déodorant senteur rosé.
Jusque-là, tout va bien. Senteur rosé. Rosé et le vin.
Rosé et le vin.
Ah.
Rosé et le vin. Pas rose, la rose. Rosé. Ou rosé du matin. Non, non. Rosé, la boisson.
Le pinard.
Voilà. Plutôt hors du commun, d'ailleurs. Hein. Quand même, cet antitranspirant fait partie d'une nouvelle ligne appelée Brunch Scent.
Sense.
Sense,
pardon. Donc, la senteur.
D'accord, voilà. Excusez-moi pour l'anglais. Hein. Donc, qui est composé d'autres produits pour le moins insolites, tels qu'un déodorant au mimosa. Ou encore, un senteur sangria. Olé ! Les adeptes pourront alors se faire plaisir en s'offrant un coffret regroupant donc ces trois déodorants. Improbable pour la modique somme de 27 euros les trois.
Ah, quand même, quand même.
Faites le calcul. Voilà, alors si nous ne sommes pas réellement convaincus de vouloir sentir la boisson phare de l'été, hein, quoi qu'il en soit, il faut bien avouer que ces derniers sont garantis sans aluminium, sans parabènes, et n'ont pas été testés sur des animaux.
Et sans alcool ?
Bah non, rosé.
Oui, non, c'était...
Je sais.
Humour. Alors moi, j'aurais proposé aussi un senteur Tiponche. Hein.
Tiponche, ah bah oui.
Ah,
oui. Je suis preneur aussi,
c'est
moi.
C'est l'été et tout.
Voilà. Donc du coup, bah, de quoi nous faire changer d'avis, ou presque. Et vous, allez-vous succomber ?
Non, pas moi. On en parlera peut-être, ou pas. C'est l'heure.
Sur Radio Déclic. 106.3. On en parle ou pas ?
Je sais pas.
C'est comme tu veux. Soit on en parle ou on en parle pas. On en parle ou pas ?
Ok, on en parle.
Vas-y, on en parle.
Alors Philo, on en parle ou pas ?
Du rosé, de mimosa, non, 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 merci, ça va aller. Je vous propose un tout autre sujet, donc les relations humaines vs les relations virtuelles. Il fut un temps où nous prenions le temps d'écrire avec notre plus beau stylo plume ou crayon à papier bien taillé, en couleur ou en noir et blanc, à l'encre ou à la plume. Il fut ce temps où nous avions le temps de rendre visite à ce cher ami, à ses cousins qui habitent un peu loin, mais dont le voyage en train était déjà un entrain. Nous acceptions et profitions de ce temps présent, de chaque moment, chaque instant, afin que ce jour que nous redoutons tant ne nous fasse pas dire « si j'avais pris le temps ». Alors aujourd'hui, lors d'une simple discussion, on va vous dire, vous allez entendre, alors t'as Snapchat, t'as Facebook, est-ce que t'es sur Twitter et compagnie, compagnie, voilà, on vous invite à dîner, tout le monde, vous êtes à au moins 6, et tout le monde, au moins 4 sur 6 sont sur leur téléphone au lieu de discuter comme on le faisait avant.
Ouais.
Et
en voiture,
voilà,
c'est pareil aussi. Hein. Il y a, souvent, quand on croise des voitures, il y a le conducteur qui conduit, et puis les 3 ou 4 passagers sont tous avec leur téléphone.
Ah oui, voilà.
Ah, c'est incroyable. Hein.
Donc, j'étais en train de me dire, moi, que j'étais, je l'avoue, j'aimais bien écrire des lettres. Bah oui, c'est, t'as jamais écrit de courrier à
moi, non. Non, c'est, moi, au contraire, la génération Facebook, machin, ça me va très bien, moi. Je suis pas du tout. En plus, je fais plein de fautes d'orthographe, donc du coup, ça m'arrange bien de plus écrire de lettres.
Ben.
Nous, on écrit aussi sur Facebook, mais c'est pas grave si on fait des fautes, c'est ça ?
Ouais, en gros, nous, voilà.
Ah, d'accord. Et toi, Mehdi ?
Moi, j'écris pas trop de lettres. Je parle plutôt soit en direct, soit par message.
Je me demande en fait si vraiment la lettre manuscrite, la lettre qu'on écrivait à la main avant, a vraiment disparu. Parce que même, par exemple, pour un emploi, les lettres se font à, comment on dit, par
mail
non, comment on dit.
Bah, s'écrivent à l'ordinateur, à l'imprimerie, quoi, on va dire. Effectivement, alors tu m'as pas demandé mon avis, mais moi, je vais te le dire quand même.
Oui.
c'est vrai que moi, j'adorais, puisque j'en reçois plus, recevoir, par exemple, des cartes postales. Et écrit, salut, bisous, n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est un texto, ou par exemple les anniversaires, les fêtes, etc. Maintenant, c'est que des textos. Et moi, j'aimais bien aller ouvrir ma boîte aux lettres, recevoir un courrier, toucher le papier, etc. Et puis, tu te dis, la personne, elle a pris son temps. Au moins, quand elle a écrit la lettre, elle pensait vraiment à moi et pas genre un texto.
Voilà.
Hein. Moi, voilà. Alors, c'est peut-être une histoire de génération, effectivement.
Voilà.
Mais ça me manque.
Et ben, en parlant de, tout à l'heure, c'est de Facebook. Alors, ce que tu dis, c'est vrai que contrairement à Facebook, au moins, le fait de recevoir une carte, on sait que ça vient vraiment de quelqu'un qui te connaît, que des amis virtuels sur Facebook, non ?
Ben non, parce que moi, quoi qu'il arrive, bon, sur Facebook, oui, j'ai des amis en effet virtuels et j'ai des amis que je vois quasiment toutes les semaines ou voilà. Et c'est pas pour autant que j'envoie, quand je vois l'anniversaire, généralement, quand j'envoie l'anniversaire et que c'est vraiment un ami proche, il reçoit le pauvre, il reçoit un appel, un SMS, un message Facebook, un message Twitter, enfin, il reçoit tout dans la même journée. Donc voilà.
Et de vive voix, enfin.
Et de vive voix aussi. Après, si on le fait à l'anniversaire, oui, si on le fait pas, non. Voilà.
Oui, après sur Facebook, rien ne nous empêche d'avoir des amis qu'on connaît vraiment, pas forcément qu'on connaît pas.
Oui, c'est vrai qu'il y a les pour et les contre, mais j'ai là, vraiment l'impression que, enfin, quand je vois, j'analyse tout ce qui se passe autour de moi, j'ai vraiment l'impression que c'est on perd de l'humain, le vrai humain, le côté.
Disons que c'est vrai que parce que aussi le défi sur Facebook, c'est d'avoir le plus d'amis possible, le plus de likes possible. Et en fait, l'amitié, en tout cas, on va parler là de relations d'amitié. Est-ce que voilà, il y a plein de gens qui disent ah ouais, moi je suis ami avec un tel sur Facebook, alors qu'ils se connaissent pas du tout. Et là, effectivement, c'est l'amitié virtuelle que une vraie amitié avec une personne qu'on connaît. Donc c'est différent. Pour vous, est-ce que tous vos amis sur Facebook, c'est vraiment des gens que vous connaissez vraiment ?
Non.
Ben voilà, t'as des amis virtuels aussi.
J'ai des amis virtuels, j'ai des anciens, par exemple à l'époque où j'étais intermittent du spectacle, avec qui je vois plus, puisqu'on fait plus du tout le même métier.
Non, mais tu les as connus, tu les connaissais. Voilà. Mais t'as des amis qui. On peut avoir plein d'amis virtuels qui viennent des quatre coins du monde et qu'on connaît pas.
Non, moi généralement, mes amis Facebook, je les connais tous. Après, je les vois pas forcément. Il y en a certains que je vois qu'une fois dans l'année parce qu'ils sont loin. Mais sinon, généralement, tous mes amis Facebook, oui, je les connais. C'est soit des anciens collègues de travail, soit. Enfin, voilà. C'est des gens que j'ai connus réellement, pas que virtuels.
Vous savez quand est-ce qu'a été créé le premier réseau social ?
Il y a longtemps.
Et quel était-ce ?
Il y a longtemps, et je sais plus, mais il y a longtemps. C'est dans les années 80, si je dis pas de bêtises, il me semble. Mais je suis pas sûr.
Et toi, Florence ?
Je ne sais pas, non, j'ai pas d'idée. Le premier réseau social, je ne sais pas, parce qu'après, ça dépend ce qu'on définit vraiment comme réseau social. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, dès qu'on dit réseau social, Facebook, Twitter, etc. Est-ce que tout ce qu'il y avait avant, par exemple, pour les
MSN,
par exemple, MSN, t'as connu, qu'est-ce que tu as connu en premier ?
En premier, je crois que c'est MSN, je crois.
Moi aussi. Toi,
c'est oui, dit. MSN.
MSN aussi.
Ah bon, t'as
connu MSN, toi ?
Ouais.
Vers la fin, parce que ça fait.
Vers la fin, ouais.
Avec les petits bonhommes, là.
C'était
aujourd'hui, quand on voit les autres, c'est vrai qu'MSN, c'est.
De toute façon, MSN, vous savez qu'MSN, c'est donc le créateur de Facebook, là. Mark
Zuckerberg.
Voilà, qui a racheté MSN pour en faire justement Messenger de Facebook.
Ouais.
Voilà.
Eh bien, le premier réseau social, c'était classmate.com.
Meet, M2ET.
Oui. Excusez mon anglais, les auditeurs. Et qui a été créé par Randy Conrad en 1995.
Oh,
voilà, c'était ça le premier. Et c'était, à la base, c'était pour retrouver d'anciens camarades de classe.
Ah, d'accord.
C'était
comme
vraiment
genre les copains d'abord, tout ça, là.
Trombi.com, copains d'avant.
Voilà. Ça permet de retrouver des anciennes connaissances qu'on a perdues et tout. Mais après, on se limite donc au réseau social. On fait pas. Enfin, quand je dis on, c'est pas tout le monde, cette façon de parler.
La majorité.
Et même moi, d'ailleurs, c'est vrai que je prends moins le temps de me déplacer ou d'écrire. Ben, d'ailleurs, comme toi, Florence, moi, j'aimais bien écrire. Enfin, pas forcément recevoir, mais et du moins écrire. Et je le fais pas parce que je me dis, et les gens à qui je vais écrire vont me dire, oh, mais lui, c'est un temps, c'est ancien, à l'ancienne.
Mais en même temps, ça fait plaisir quand on reçoit dans la boîte aux lettres une enveloppe, c'est une lettre ou une carte postale, c'est sympa. Mehdi ?
Ouais, Philo, c'est pour ça que t'es le seul à pas avoir d'écran dans le studio.
Ah oui, c'est vrai, tiens.
Ben voilà, ben
en non, mais. Il écrit encore sur son cahier.
J'aime beaucoup écrire. Ben depuis, depuis que je sais écrire, hein, depuis à l'école, j'ai toujours aimé écrire. Et j'aime bien. J'avais aussi une plume là avec l'encre. J'aime bien. Comment écrire.
Après, on parle de relations d'amitié. Alors, il faut peser le pour et le contre, parce que c'est vrai que bon, il y a ce côté-là un petit peu, et que les gens, sous couvert, qu'on les voit pas, se cachent, donc peuvent écrire un peu n'importe quoi et se lâchent.
Et n'importe comment.
Mais d'un autre côté, on peut, la communication est ouverte, on peut discuter avec le monde entier. Et puis grâce aussi aux réseaux sociaux, avoir des infos qu'on n'a pas ailleurs, donc ce côté-là est plutôt bien. Après, il y a aussi, hormis les réseaux sociaux, il y a tous les sites de rencontres, puisque maintenant aussi, on aurait pu faire aussi rencontres en vrai contre rencontres virtuelles, mais c'est le même principe.
D'ailleurs, une question. Tu crois qu'on peut avoir une relation virtuelle, vraiment, sans que les deux personnes se voient?
Après, ça dépend ce que il faut préciser ta question, mais après, on peut commencer une relation, c'est-à-dire parler à quelqu'un, écrire à quelqu'un ou parler à quelqu'un, mais à un moment donné, il faut se rencontrer, hein, il n'y a pas de secret, hein, sinon ça ne peut pas marcher. Hein.
C'est Z.
Ah oui, non, mais pour aller plus loin, forcément, enfin, si tu veux après construire quelque chose, tu peux pas construire quelqu'un, même s'ils habitent Brest et Mulhouse, t'es obligé quand même de rencontrer la personne. Tu peux pas que avoir une relation virtuelle. Enfin, en tout cas, mon avis.
Toi, Mehdi ?
Moi, je suis d'accord avec vous deux. Moi, je connais quelqu'un qui, depuis un an, entretient une relation comme ça avec quelqu'un qui habite dans le sud.
Moi aussi.
Ils se sont jamais vus ?
Non.
Ouais, moi aussi,
il va falloir qu'ils se voient, parce que sinon...
Ils se disent ensemble ?
Oui, oui.
Mmh. Oui, carrément.
Oui, c'est ça existe, moi aussi, j'en connais. Hein.
Oui, moi aussi, c'est pour ça. J'en connais aussi, c'est pour ça, mais je peux pas, moi.
Après, c'est obligé qu'ils se voient. Bon, il y a peut-être pour le côté...
Physique.
Au toucher.
Physique, le côté physique.
Physique, tout...
Bon, ceci dit, maintenant, il y a les caméras aussi avec les webcams et
ça va un moment. Hein.
Mais on se voit.
Ils se sentent pas, enfin.
Si c'est comme ça.
Oui, il n'y a pas de contact.
Voilà, contact.
Il faut un contact physique.
Après, si... Enfin, je sais pas, s'ils ont choisi, ils assument, enfin, s'ils se sentent bien.
Après, ça dépend dépend des gens, chacun.
Peut-être aussi, c'est une forme de prévention...
Ah, ça c'est clair.
Ah bah là,
c'est la meilleure prévention.
Même pas besoin de.
Elle est gratuite, écologique, tout ce que vous voulez.
Là, très bien.
Non mais on voit pas la personne puisque c'est bien beau de on met une photo des off. Ça
Dans le coup de la photo, on connaît photos il y a 10 ans.
Les photos vues du ciel, les photos d'il y a longtemps. Oui, tu connais pas cette technique. Je me prends en vue d'en haut, comme ça on voit moins les défauts du bas. C'est
pas mal.
Est-ce que vous y croyez, vous, à ce genre de relation, que ce soit amitié ou amoureuse
Moi, je l'ai déjà eu. C'est vrai que j'ai commencé une relation. Virtuel, la personne je l'avais jamais vue. Bon, j'ai fini par la voir.
Voilà, c'est ça.
Mais j'ai aussi une autre question. Les relations à distance, vous y croyez? Vous croyez que c'est pas possible? Par exemple, je connais, je ne dis pas de nom. Bref.
Vas-y, Philo.
Un couple marié, ils se voient dans l'année tous les. Tu peux compter les fois. Oui, ils sont mariés. Et ils ont des enfants.
Oui.
Et ils ne se voient
pas. À chaque fois qu'ils se voient, en gros, ils font un enfant.
Après, ça dépend. Est-ce que c'est voulu ou pas? Parce que ça existe beaucoup. Ne serait-ce que, je ne sais pas, regarde dans l'éducation nationale, il y a un prof qui va être muté, je ne sais pas, à Paris, alors qu'ils habitent à Marseille. De fait, pendant un moment donné, ils ne peuvent pas se voir.
Ce que je voulais dire.
Ça arrive, ça. Ou alors, dans certains métiers, ceux qui sont sur les plateformes là, de pétrole, etc. Donc ils partent pendant longtemps, voire 6 mois, 1 an, etc. Et après ils reviennent. T'as des gens qui bossent à l'étranger.
Donc c'est logique.
Donc c'est pour ça. C'est faisable, d'où ma question, si c'est... ça dépend si c'est choisi ou de fait imposé. Ta question.
Choisi.
Et tu sais que dans les pays du Nord, il y a des couples mariés qui vivent dans 2 appartements différents. C'est une tradition,
oui.
Ça existe.
Oui, oui. De toute façon, même.
Ils se marient aussi entre cousins et cousines, mais ça, c'est autre chose.
Oui, là, c'est un autre débat.
mais là, ce qu'il veut dire, c'est vraiment loin. C'est pas forcément 2 appartements, ouais, mais loin. Par exemple, dans 2 pays différents.
Oui.
Alors, est-ce que vous y croyez à ce genre
est-ce
de.
Est-ce que vous pensez que cette relation peut durer?
Alors, si... t'as dit. Si c'est dans le cadre du travail. Oui, forcément, puisque généralement, voilà. Après, si c'est vraiment un choix délibéré d'être ensemble et d'habiter l'Allemagne et l'Angleterre, à mon avis, je ne crois pas trop. Moi.
La question, c'est est-ce que vous pensez que ça peut tenir, ce genre de relation, que ce soit choisi ou pas d'ailleurs?
Pour moi, non.
Pour toi, non.
Bah, si c'est choisi, c'est qu'il y a une volonté d'écartement déjà.
Pas forcément, c'est... parce que ça peut partir d'un fait.
Mais c'est bizarre. T'aimes quelqu'un, t'es marié avec lui, vous voulez vivre ensemble, et puis tu dis, tiens, moi je vais habiter là, et puis toi tu vas habiter à 200 km.
Non, même par le travail.
Par le travail, oui. C'est faisable si c'est temporaire.
Non, c'est pas ça. C'est par exemple, tu rencontres quelqu'un d'un autre pays. Donc, déjà sa vie, sa situation, etc. Tu ne peux pas d'un coup, toi, te dire, moi, je déménage et je vais vivre dans ce pays-là, ou l'autre personne, moi, je déménage et je vais vivre dans ce pays. Donc, à un moment donné, vous êtes obligé de vivre une relation lointaine. Après, il y a des allers-retours, voilà. Ou tu peux choisir en disant, parce que toi, tu parles déjà de mariage, mais on n'en est pas là, et puis tout le monde ne veut pas se marier. Mais tu peux dire, moi, j'ai envie de. Je conçois mes relations, que voilà, j'ai besoin un peu d'espace, etc. Mais et pas forcément une relation fusionnelle.
Oui, après, je pense que, comme tu dis, si je rencontre quelqu'un dans un autre pays et qu'on tombe amoureux, etc., c'est faisable, dans le sens où, en fait, on s'est rencontrés ailleurs. Alors que si je rencontre quelqu'un ici, que là, on se dit, je vais aller vivre là-bas et toi là-bas. C'est ça que j'avais compris.
Ouais. Effectivement, là, c'est enfui. Mais la question est, est-ce que tu penses que ça peut être durable?
Oui, je pense que ça peut être durable. Pas durable non plus à l'infini, mais...
Ah, faut savoir, hein. C'est...
Moi, je pense que c'est possible, mais que c'est pas durable.
Voilà, oui, c'est ça.
Voilà. Et je parle par expérience, parce que moi, ça m'est arrivé. Je parle par expérience, donc effectivement, on tient un moment, il y a des allers-retours, etc. Donc c'est chiant, puis ça coûte cher, surtout. Surtout quand c'est un autre pays, ça coûte super cher. Donc il y a des allers-retours, chacun son tour, mais sur la longue, moi, je pense que ça ne peut pas durer. Ça peut durer très longtemps, certes, mais je pense que ça ne peut pas durer.
Ouais.
Et Philo, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Oui, je pense que c'est faisable. Et est-ce que ça peut durer? Je ne sais, ça, je ne sais pas. Je sais pas.
Bon, ça sera un autre débat pour un autre en parle ou pas. Et puis, on va enchaîner en musique.
One more time.
écouter les Daft Punk avec le morceau One More Time. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Déclic 106.3. On continue avec les pépites de CZ. C'est une histoire dingue comme seule l'actualité marseillaise peut les concevoir.
Eh oui, car ce 20 décembre 2013, une dame de 74 ans est allée retirer une coquette somme à la banque postale. Et donc deux voleurs lui ont arraché son sac à main dans son hall d'immeuble. Les deux malfaiteurs n'ont jamais été identifiés. Le 3 mars dernier, 3 ans et demi après, la victime découvre un gros bouquet de fleurs devant sa porte. Mystère. 4 jours plus tard, un jeune homme débarque chez elle, lui offre de nouveau des fleurs et lui rend ses 20 000 euros en lui présentant ses excuses. La vieille dame ayant fourni le numéro de téléphone du voleur au policier, ils ont pu l'interpeller à la fin du mois de mai. Il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Son complice est recherché.
Oui, mais dis donc, la prochaine fois, tu nous le fais avec l'accent marseillais. Hein.
C'est vrai, j'y ai pas pensé, c'est vrai, j'aurais pu.
Et puis une dernière.
Allez, pour vous autour de la table, si je vous dis donc, à votre avis, 7% des Américains pensent quelque chose. À votre avis, ils pensent quoi ?
Pensent que les Français roulent encore en 2 chevaux.
Ah, c'est possible, mais c'est pas ça.
Ben, je sais pas,
vous savez pas, d'accord. Allez, je vous donne un deuxième indice. Donc, allez, je vous dis un mélange de lait, de cacao et de sucre.
Chocolat.
Oui, mais c'est pas l'artiste. C'est presque ça, mais c'est voilà. Allez, pour 7% des Américains, le lait chocolaté est bien plus simple à produire. Selon donc un sondage réalisé par le National Dairy Council, 16,4 millions d'Américains s'imaginent qu'il provient directement des vaches de couleur marron.
Ah ouais, ça c'est les Américains. Hein. Ah.
Je vous jure que c'est vrai. Donc depuis des décennies, les chercheurs en agriculture, nutrition et éducation se plaignent que de nombreux Américains sont des illettrés de l'agriculture.
Et pas que.
Et pas que, oui. Ils ne savent pas où poussent leurs aliments, comme ils arrivent en magasin, ou même dans le cas du lait chocolaté, ce qu'il y a dedans. Dans les années 90, une étude menée par le département de l'agriculture américain avait révélé que près d'un habitant sur 5 ne savait pas que les burgers étaient à la base du bœuf. Tout aussi surprenant, les frites apparaissent au premier rang des légumes, et j'ai bien dit légumes, les plus consommés donc par les Américains. Un certain nombre d'entre eux, notamment des enfants, ne savent pas que les frites sont des pommes de terre.
Ouais, ben, moi je dirais qu'il n'y a pas que les Américains, hein, parce qu'ici, au niveau des frites, les enfants ont les pommes de terre, ou comme le poisson. Donc à voir, les poissons sont en rectangle, donc c'est grave. Mais après, ça ne m'étonne pas les Américains, hein, ils sont assez incultes, et comme dit Philo, on en reparlera. Voilà, c'est la fin de notre émission. On se retrouve dans 15 jours maintenant. CZ, tu seras là au rendez-vous ?
Oui, je serai au rendez-vous pour la dernière de la saison.
Philo ?
Oui, moi aussi.
Il sera là. Et puis Mehdi ?
Indiana Jones. Moi, je ne serai pas là parce que je serai déjà en vacances. Mais n'ayez crainte, on se retrouve en septembre prochain. Voilà, bonnes vacances à tous.
Eh ben, bonnes vacances à toi, Mehdi, hein, parce que nous, on sera encore là. Donc, rendez-vous dans 15 jours. Senzo sera aussi là. Hein, Senzo à la technique. Et puis, tout ce qu'on a à dire. Restez à l'écoute de FPP 106.3 pour la suite. L'émission qui suit, c'est L'Envolée. Salut, bye bye. I see in the animus, I see the righteous, I see an end. I got some homies that just got out, some ones that just went in. The deeper the ocean, the deeper the pain. Blow out the brains, rip through veins. Ain't got a call, I know names. They know I'm married to. Tous les premiers, troisième, cinquième vendredi du mois, t'es sur Radio Déclic 106.3, de 18h à 19h. Fréquence pareil pluriel.